Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou À l'Ève pour ceux qui aiment les raccourcis. À l'Ève, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore.
À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel.
C'est développer le fait d'être dans l'instant présent. Alors c'est quelque chose qui est très au goût du jour, avec en particulier le mouvement de la pleine conscience. Mais au-delà d'un concept, c'est d'habiter tout son être, aussi bien physique que émotionnel, que mental, et même à des niveaux plus subtils, et de devenir l'observateur de notre propre vie.
Je suis Christine de Joigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Fabrice Mouchin. Non, mais si, vous avez bien entendu, Fabrice. C'est le premier épisode d'À l'écoute de sa voix avec un invité masculin. Qui a dit que la spiritualité était uniquement une affaire de femmes? Après avoir été scénariste dans le jeu vidéo, Fabrice se lance dans l'aventure du web marketing en 2012. Une année intense d'entrepreneuriat plus tard, il réalise que quelque chose lui manque dans cette sphère qui sert à faire de l'argent. Grâce à sa quête spirituelle démarrée en 1998 avec un maître de sagesse, chaman et yogi, il arrive à transmuter son approche du web marketing. Fabrice au quotidien incarne un paradoxe, celui de faire cohabiter harmonieusement marketing et spiritualité. Comment fait-il? Eh bien, il infuse écoute, sensibilité et intuition dans sa pratique professionnelle. Aujourd'hui, il accompagne individuellement ou en groupe des indépendants, entrepreneurs ou entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en étant parfaitement alignés avec leurs valeurs. Il propose aussi dans un tout autre registre des enseignements spirituels confiés par son maître. Laissez-vous bercer par le calme de Fabrice. Il nous parle du rituel pour endormir son fils, des mots magiques et de son maître spirituel, Lou Blanc. Bonjour Fabrice.
Bonjour à toi. Comment vas-tu, Christine ?
Je vais très très bien. La toute première question que je pose à chacun de mes invités est la suivante, c'est Fabrice, qui es-tu ?
Et c'est une question à laquelle je vais être bien embêté de répondre, parce que je pense foncièrement qu'on passe notre vie à répondre à cette question. Donc je pense être une personne en cheminement pour apprendre à savoir qui elle est. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me définit à l'heure d'aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui je suis un père de famille. Je suis une personne qui est en quête spirituelle, donc qui cherche à approfondir sa connaissance de lui-même. Et au niveau du travail, je suis un consultant et un formateur en web marketing.
Qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ?
Alors, ce que peu de personnes savent sur moi, eh bien, c'est que ma quête spirituelle, c'est quelque chose de très, très, très profond qui a commencé en 98. Quand j'ai rencontré un maître de sagesse dont je suis les enseignements depuis lors et que j'ai voyagé pendant 10 ans à ses côtés un peu partout dans le monde à la rencontre de différentes traditions. Alors pas de façon temps plein, on partait entre 1 mois et 3 mois chaque année, mais ça m'a permis d'aller un peu partout en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe. Voilà, et ça, il y a peu de gens qui imaginent qu'il y ait une telle profondeur dans mes aspirations et ma pratique.
Quelle est ta toute première pensée au réveil ?
Ah, ma toute première pensée au réveil. Alors ça, c'est une bonne question parce que du fait des enseignements que je suis, il y a de moins en moins de différence entre le rêve et ce qu'on appelle la réalité. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup, je sors du rêve et ah, c'est la journée qui commence. Mais c'est presque un fil continu. Alors ça dépend beaucoup de ce que j'étais en train de vivre dans le rêve.
Alors on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le podcast du coming out spirituel et la toute première question c'est qu'est-ce que la spiritualité pour toi ?
Pour moi, la spiritualité c'est une quête intérieure, c'est un élan intérieur, un appel, une soif qui demande à être assouvie vers quelque chose de différent que ce que nous propose notre réalité du moment. Et peu importe le chemin par lequel ça va se passer, c'est une aspiration à trouver quelque chose de plus profond. Et je pense que c'est ça la spiritualité.
Je parlais d'élan à l'instant. Cet élan, quelle place il a dans ta vie aujourd'hui ?
Il occupe tout l'espace. Il n'y a pas une parcelle du quotidien et même de mes nuits qui n'est pas habitée par cette dimension-là.
Concrètement, comment tu la vis ?
Alors, de façon pratico-pratique, il y a des temps qui sont dédiés à l'introspection, à la méditation, à des pratiques spirituelles, donc le matin et le soir. Ensuite, c'est une conscience au quotidien. C'est développer le fait d'être dans l'instant présent. Alors, c'est quelque chose qui est très au goût du jour, avec en particulier le mouvement de la pleine conscience. Mais au-delà d'un concept, c'est d'habiter tout son être, aussi bien physique que émotionnel, que mental et même à des niveaux plus subtils. Et de devenir l'observateur de notre propre vie.
Et la spiritualité dans ton business, quelle place elle a ? Comment elle s'articule ? Comment elle s'intègre dans ton business ?
Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à part entière. C'est-à-dire que dans mon activité de web marketing, qui est plutôt comment se promouvoir sur Internet, eh bien, mon approche, elle est complètement nourrie par cette spiritualité. C'est-à-dire que pour pouvoir communiquer efficacement, pour pouvoir trouver de la clientèle, pour moi, c'est pas un jeu d'artifices commerciaux où on essaye de séduire et d'agripper les gens, mais on essaye d'être le plus authentique possible pour rayonner avec force nos valeurs, et c'est ça qui attire les gens, et c'est ça qui fait qu'ils ont envie de nous suivre, et parce qu'ils ont un besoin particulier qu'on est capable de remplir, eh bien tout concorde pour qu'ils puissent devenir nos clients, et ça devient des très très bons clients, non pas dans le sens où ils nous donnent beaucoup d'argent, mais dans le sens où ils sont extrêmement satisfaits de ce qu'on leur apporte.
Et donc il y a probablement aussi une fidélité associée à cette...
Elle est complète.
Cette satisfaction, ouais.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vrai, où on est authentique et où on apporte une vraie solution aux gens, eh bien, ils ne peuvent que nous être fidèles. Et du coup, bah, c'est aussi un des leviers, hein. On pense souvent comment est-ce qu'on augmente son chiffre d'affaires, à se dire il faut plus de clients, mais en fait, le truc le plus simple à faire, c'est de fidéliser ceux qu'on a. Pour moi, en tout cas, ça coule de source. Ça coule de source et bon, j'en parlerai peut-être un petit peu avec tes autres questions après. Mais il y a eu une vraie prise de conscience et un vrai tiraillement à l'intérieur pour réussir à faire cohabiter ce côté commercial et ce côté spirituel. Et à côté de tout ce qui est web marketing, cette année, là, depuis un tout petit peu plus d'un an, j'ai vraiment mis l'accent aussi à développer le côté spirituel, mais pur. Parce que j'ai la chance d'avoir été habilité à retransmettre un des enseignements du maître de sagesse que je suis depuis 98, et du coup, eh bien, j'utilise les outils que j'ai appris, que j'ai pratiqué depuis quelque temps, au service de cet enseignement-là. Donc, je le promeus sur les réseaux sociaux, j'en parle, je fais des conférences, et puis, bah, ça permet de développer aussi cette activité-là, mais toujours avec un sens éthique. De comment est-ce qu'on approche les gens, est-ce qu'ils ont besoin de ce qu'on leur propose ou pas.
Et alors, ton coming out, est-ce qu'on peut le dater de 98 ?
Alors, il s'est fait par étapes, et la première étape, c'est quand j'ai eu 12 ans, et que je suis rentré en contact avec l'occultisme. C'est là que j'ai compris que j'aspirais à quelque chose d'autre. Et j'ai entamé une recherche, d'abord livresque, donc j'ai acheté beaucoup d'ouvrages, mes parents me faisaient des chèques sans ordre, et j'achetais des livres dans une librairie ésotérique à Paris, et je me suis abreuvé de lecture, et tout ça m'a emmené à beaucoup évoluer dans ma recherche et dans ma compréhension intérieure, et ça m'a préparé à rencontrer Lou Blanc en 98. Et puis après, il y a eu un coming out, on va dire, plus au niveau du business, qui s'est fait, lui, en 2012, quand j'ai quitté le monde du design de jeux de rôle en ligne. Et je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose de différent qui me ressemble plus.
Donc ce coming out, il a été, on va dire, professionnel. Est-ce qu'il y a eu un coming out auprès de tes proches, de ton tout premier cercle ? Et si oui, comment s'est-il déroulé ?
Alors, il s'est déroulé avec un accident. Quand j'avais 17 ans, Je venais de commencer la conduite accompagnée. Je me suis pris un bus scolaire. Et il y avait ma mère dans la voiture et mon frère. Ça a été un accident très violent. J'ai failli perdre la vie. Et ça a été un choc pour ma mère, qui tout d'un coup s'est ouverte à des techniques, on va dire, alternatives, parce que elle ne voulait pas que je remonte dans une voiture avec un trauma de cet accident et que je sois plus capable de conduire.
Ouais, bien sûr.
Et puis ça a été pour eux un début de transformation et ils ont commencé leur cheminement là-dessus. Ils avaient vu que j'avais des ouvrages occultes, ésotériques, le magnétisme, la magie, enfin vraiment beaucoup beaucoup de choses, j'étais très éclectique et ça leur faisait un petit peu peur, mais ils m'en avaient jamais parlé, ils avaient décidé de me faire confiance. Et quand ils ont commencé à mettre le pied dans les médecines alternatives, à ce moment-là, et ben c'est quelque chose qui s'est complètement ouvert pour eux. Et des années plus tard, ils m'ont même accompagné, par exemple, au Pérou pour faire une retraite avec une diète de plantes pendant 21 jours. Et ils ont vraiment débuté un gros cheminement de travail sur eux aussi.
Quelles sont les peurs que tu as dépassées quand tu as fait ton coming out ?
Alors, je pense que la peur principale, c'était de ne pas être accepté pour ce que je suis. Ça a toujours été un peu compliqué de se dire, tiens, mais si j'assume vraiment cette partie-là qui semble très paradoxale avec le marketing, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on va pas me prendre pour un fou ? Et je pense que ça a été cette première étape qui a été importante, même si je pense qu'autour de moi, les gens s'en sont pas rendus compte, parce que je suis quelqu'un qui est assez provoque, qui affiche très ouvertement ce que je pense et ce que je vis, mais quand même, derrière, il y avait ce « ok, est-ce que j'insuffle ce spirituel dans ma pratique ou pas ?» Ça a été un véritable cheminement intérieur pour y arriver.
Est-ce qu'il y a encore des peurs qui te bloquent encore, et si oui, quelles sont-elles ?
Alors, la peur qui est encore là, ce serait de faire une bascule totale sur le spirituel et d'être capable d'en vivre, ça j'ai aucun souci, mais sereinement, c'est-à-dire sans avoir de pression. Parce que une des choses qui me travaille beaucoup, c'est que dès qu'on met des histoires d'argent dans le spirituel, c'est assez facile de basculer dans l'état d'esprit à vouloir faire de l'argent, alors qu'on est avant tout là pour apporter quelque chose à l'autre. Et j'ai une crainte par rapport à cette capacité à faire ce switch et à se dire je fais de l'argent avec le spirituel, et j'ai pas du tout envie de tomber dans ce travers là. Je pense que ma crainte, unique crainte, elle est à ce niveau là.
Quel conseil tu aurais aimé recevoir, c'est-à-dire les conseils que tu as pas reçus et que tu aurais adoré recevoir?
Alors c'est ce que je donne aujourd'hui.
Ouais.
évidemment, et ce que je donne aujourd'hui, c'est que on peut promouvoir son activité sans faire de vente. Et je pense que c'est cette notion de aborder le business avec authenticité et générosité qui m'a manqué au début. Comprendre que c'était pas juste une histoire de technique, que ce soit il faut avoir un site, donc faut savoir faire de la technique, il faut avoir des techniques de vente pour convaincre les gens, parce qu'il n'y a pas à convaincre les gens, c'est pas la peine. C'est d'avoir cette approche plus écologique et plus respectueuse de moi-même, mais aussi des autres. Et j'aurais aimé commencer par ça. Mais si je regarde en arrière l'époque, puisque c'était en 2012, ce qu'il y avait à ce moment-là sur le marché francophone par rapport au marketing, ça n'existait pas. Donc j'ai pas de regrets. Le chemin que j'ai fait, je suis content de l'avoir parcouru parce que du coup, ça me permet d'aider les entrepreneurs et les indépendants que j'accompagne à le faire eux aussi. Et si j'avais eu directement tout sur un plateau, je pense que je ferais pas la même chose aujourd'hui.
Attention, la prochaine question, elle risque de te choquer, Fabrice.
C'est vrai ?
C'est pour ça que je te préviens.
Je bois un coup alors.
Alors pendant que tu bois, c'est comment serait ta vie si tu devais renoncer à ta spiritualité ?
Ah, c'est une question choc, effectivement. Et je me la suis souvent posée. La seule chose que j'entrevois, c'est un désert. C'est-à-dire que je vais pas dire il y aurait pas de vie. Je me sentirais comme une âme errante. Parce que cette spiritualité, elle vient combler un vide que je vivais déjà quand j'étais jeune, à cet âge de 12 ans, là. Et même après, jusqu'à 23 ans, quand j'ai rencontré Lou Blanc, j'y avais ce vide, et c'est ce vide qui m'appelait. Et c'est ça qui a fait que je me suis mis en recherche. Donc si c'était pas là, je serais encore cette âme errante qui cherche ce qui lui manque.
Sans transition aucune, Et peut-être, parce que on va voir, peut-être que la transition, je la fais moi-même, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu parles de désert, donc je sais pas, j'ai pensé spontanément au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et la prochaine question, c'est quel est le livre parmi les tout premiers que tu as lus quand tu étais enfant, donc, dont tu te souviens encore ?
La première histoire dont je me souviens, c'est Jack le tueur de géants. C'est un conte fantastique où un jeune paysan se voit affronter des géants. Et c'est un conte très très initiatique au final. Et le deuxième dont je me suis souvenu qui m'a marqué dans mes premières lectures, ça a été un livre dont vous êtes le héros, La Reine des Neiges. Et j'ai été très très influencé par ces contes médiévales fantastiques où la magie était prédominante. Et c'est ça qui m'a aussi dit, il y a autre chose. C'est quoi le mystère qu'il y a derrière ? Parce que je suis sûr que la magie, elle existe dans notre monde moderne, soi-disant où il n'y en a pas. Et c'est ça qui m'a donné de l'élan. Ce que j'observe, et ça c'est marrant parce que c'est ma compagne qui est astrologue, qui m'a dit un jour, mais t'as ta lune en bélier. Et les gens qui ont leur lune en bélier, leur besoin fondamental, c'est le rêve. C'est d'être capable d'avoir des aspirations très 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 élevées, pas dans le sens spirituel, mais d'avoir des projets de très très grande envergure. Et de pouvoir rêver que la magie est possible et de pouvoir la faire, eh ben ça m'a nourri dans une enfance où je me sentais très seul.
En parlant d'enfance, si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais ?
Ta question me fait rire parce que j'ai un enfant, il va avoir 4 ans là, ouais. Et j'ai un petit rituel qu'on a mis en place avec ma compagne le soir pour l'endormir. Ça s'appelle les mots magiques. On lui dit des mots et il est très très fan de ça, justement pour qu'il puisse s'en imprégner et qu'il puisse en faire quelque chose plus tard. Et donc les 3 principaux, c'est la sagesse, la conscience et le courage.
Quelle est ta devise, si tu en as une ?
Toujours plus libre.
Quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
J'en ai aucune idée. Ben, j'avais pas de métier. Ça m'intéressait pas, en fait, de travailler. Et je pense qu'à l'époque, j'avais pas vraiment la compréhension de ce que ça voulait dire que travailler. Et ce que je voulais, c'était de la reconnaissance. Et d'une certaine manière, l'occulte m'a donné un espoir dans ce sens-là. Alors, un espoir un peu bizarre, parce que si j'étais pas respecté des autres, que j'avais pas de reconnaissance, je voulais pouvoir les faire tomber malades, leur lancer des boules de feu, leur en mettre plein les yeux. Donc c'était très très infantile comme façon de penser, mais j'avais pas un métier en particulier. Ce que je voulais, c'était juste de la reconnaissance et de l'amour.
Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ?
Je crois que je les ai déjà rencontrées.
Tu veux partager ces rencontres avec nous ?
Ouais, bien sûr. Lou Blanc. Quand j'avais 14 ans, j'ai demandé à rencontrer un maître spirituel qui puisse m'enseigner et j'ai été comblé. J'ai rencontré ma compagne et j'ai rencontré mon fils.
Qu'est-ce que tu emportes sur une île déserte ?
Un coussin de méditation.
Alors de façon beaucoup plus matérielle, quelle est l'appli qui est indispensable dans ton téléphone ?
Ah, c'est terrible. Alors j'en ai 2 qui me viennent en tête, qui me servent beaucoup. Je pense que je vais choisir Cam Scanner, qui permet donc de prendre en photo des documents et de les transformer en PDF. Et du coup, ça me permet principalement de scanner mes factures et de les envoyer automatiquement à la comptable. Et ça, ça m'a changé la vie, ça. La deuxième application dont j'aurais beaucoup de mal à me passer, c'est LastPass, qui garde pour moi tous mes mots de passe.
Est-ce que tu regardes la télé ? Et si oui, quelle est ta série télé préférée ?
Alors, j'ai été un très très grand fan de cinéma et de séries. Depuis que je suis papa, c'est moins vrai, parce que je suis sur d'autres choses. Cependant, je pense que la série qui me fait bien kiffer depuis quelques années, c'est Viking.
Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble ?
L'Écosse.
De quoi es-tu reconnaissant ?
De tout.
Quelle est la rencontre qui t'a marqué ?
Celle avec Lou Blanc.
Nous arrivons au terme de l'entretien et je termine toujours avec cette question, même si tu y as un peu répondu, mais quels sont les conseils que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui n'ose pas pousser la porte de son propre placard spirituel ? Tu sais, souvent, on dit que les gens sont coincés, ils ont envie de sortir, ils n'osent pas, etc., avec des peurs, évidemment, qui les bloquent. Et toi, quels sont les conseils que tu aurais envie de leur donner ?
Plus que des conseils, ce serait 2 questions. Qu'est-ce que vous risqueriez à le faire ? Et qu'est-ce que vous risqueriez à ne pas le faire ? Et c'est cette question-là, qu'est-ce que je risque à ne pas le faire, qui m'a poussé de l'avant toujours. Un jour, quand j'avais 17 ans, j'étais chez mes parents. Je venais de commencer une prépa et j'étais revenu le week-end et je me suis posé devant la télé. Il devait être 1h du matin. Et tout d'un coup, je me suis vu au-dessus de mon corps et je me regardais en train de regarder un écran avec de la neige dessus. Et je me suis dit, Fabrice, quand tu vas mourir et que tu vas faire le récap de ta vie, qu'est-ce que tu vas penser de toi à être là, à rien faire, juste regarder, rien du tout, quoi. Et c'est un peu ça l'idée de cette question, c'est ce que tu fais en ce moment, si tu le changes pas, t'en seras où dans 5 ans, t'en seras où dans 10 ans, et est-ce que ça te convient? Parce que si c'est pas le cas, eh ben, ne te pose pas la question, plonge. Plonge, et peu importe ce que tu vas découvrir, ça va s'affiner avec le temps, il faut pas avoir peur des mauvais choix, parce que il y en a jamais. Il y a que des choix qui nous amènent à des compréhensions. Et si on se trompe, ben, on comprend qu'on s'est trompé, donc on a grandi. Et donc le choix d'après sera plus pertinent. Et c'est comme ça qu'on s'affine. Et c'est comme ça qu'on s'ajuste. Et c'est comme ça qu'on se trouve.
Ben, merci beaucoup, Fabrice.
Ça a été un vrai plaisir.
À bientôt.
À très bientôt, Christine.
Voilà, Alev, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet alecoutedesavoie.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alev, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alecoutedesavoie.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, alecoutedesavoie.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.